Bon, bonsoir à tous. Donc j'espère que vous avez fait une bonne visite du site de la chaufferie. Je pense que c'était important qu'en ce début de mandat, les élus puissent connaître comment une grande partie des équipements publics, voire même la quasi-totalité des équipements publics de Vinay, sont chauffés par la chaufferie, la régie municipale. Et puis comprendre également comment ça fonctionne et ce qui peut arriver en termes de dysfonctionnement et en termes de qualité environnementale, puisque c'est une chaufferie biomasse, donc avec toutes les qualités qu'on peut lui reconnaître sur l'environnement par rapport à la pollution, par rapport aux kilowatts développés. Donc c'est toujours intéressant de connaître et on essaiera de faire comme ça les différents équipements publics. Tout au long du mandat, de pouvoir les voir. Enfin, on essaiera de le faire dans la première année pour que vous puissiez avoir pleinement connaissance, du patrimoine communal. Donc, je vais commencer l'appel. Jackie Sommeil, Vanessa Savini, Jean-Pierre Monnet, Myriam Charabasi, Renaud Mélinon, Ghislaine Jonin, absente pour voir Myriam, Firmin Lopez. Pierre Bluna, absent pour voir à Jackie Sommeil, Nadine Gaoui, Ghislaine Senz, Véronique Laforêt-Bérard, Jean-Philippe Simoni, Florence Glénat, Christine Curto, Delphine Raymond-Hallon. Ah oui, j'ai fait des efforts. Nicolas Billon-Piron, Cindy Papaoum, Marlène Vincendé, Alexandre Luxos, Sylvain Winter, Nicolas Bossupica, Léna Peguet, Lucas Geronimo, Michel Cordero, Frédéric Ponin, absent, n'a pas donné de pouvoir, et Thomas Pastre. Donc le quorum est atteint. Donc je commence par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 avril 2026. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations avant que je mette au vote? Oui, toi. Ça.
Je te remercie. Oui, non, alors, ce n'est pas par rapport au contenu du PV en lui-même, puisque j'étais absent, je ne vais pas pouvoir juger de son contenu. On avait simplement deux choses. D'abord, on voulait saluer le projet de travaux de construction d'une voie verte, en particulier sur l'avenue du Stade, qui a été prévu au dernier conseil municipal. Voilà, j'appelle à ce que simplement on n'hésite pas au moment de la construction, une fois que le bureau d'études sera là et que le bureau d'études lui-même puisse prévoir de consulter et de demander leur avis aussi aux usagers de cette future voie verte et aux associations d'usagers qui ont une véritable expertise sur ces choses-là et qui vont nous permettre de faire une voie verte qui correspondra à leurs besoins. La deuxième chose, c'était un étonnement simplement sur le dernier, parce que sur le sujet des caméras de vidéosurveillance, on s'étonnait que vous vouliez lutter contre un sentiment et pas contre l'insécurité en elle-même. Alors, on dit ça parce que l'installation de caméras de vidéoprotection, une vidéoprotection, une vidéo, une caméra en manière générale, ça ne protège pas en soi. Ça peut surveiller, mais ça ne protège pas. On le sait qu'à Carcassonne, il y a une caméra qui a été installée pour surveiller une autre caméra, parce que la caméra était dégradée régulièrement, il fallait la surveiller. On sait qu'à Massy, c'est des policiers de la brigade anticriminalité qui ont été postés sous une caméra pendant très longtemps pour la surveiller. Pareil à la Duchère, au Havre, etc. À Vinay, on avait déjà 43 caméras. Il me semble, si mon compte est exact, ça fait une caméra pour 93 habitants. C'est plus qu'à Nice, qui est la ville la mieux dotée jusqu'à présent. C'était pas très utile, à notre avis, hein, d'en rajouter. Doublement inutile parce que, en plus, en faisant une rapide recherche, on est tombé sur un document du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui a demandé à un chercheur qui s'appelle Guillaume Gormand, qui est sociologue il me semble, qui a travaillé avec le groupement de gendarmerie de l'Isère à Grenoble, dans l'agglo grenobloise, c'est vraiment pas très loin, c'est pas très vieux, ça date de 2020, les études portaient sur 2017-2020. Et l'objectif c'était d'évaluer l'utilité de la vidéosurveillance à ce moment-là. Le résultat, en gros, il tient en 4 points. Aucun impact sur la dissuasion, un usage des images dans 10% des enquêtes, une contribution directe à l'élucidation des enquêtes, donc de ces 10% des enquêtes, dans 1,3% des enquêtes, et on parle d'un panel de 1900 enquêtes. Je pourrais vous transmettre, hein, si ça vous intéresse, cette étude, elle est relativement facile à lire. Et puis en plus, un usage dans les procès, en particulier au tribunal judiciaire, entre 0,3 et 0,6% des enquêtes pour ce qui concerne la vidéosurveillance. La Cour des comptes, en 2011, elle pointait déjà que ça avait un coût très élevé pour les collectivités, sans aucune, là je cite la Cour des comptes, c'est pas des affabulations de ma part, sans aucune corrélation globale qui a été démontrée entre la vidéosurveillance et la baisse de la délinquance. Doublement inutile jusqu'à présent. Alors à Vinet, du coup, dans ce PV, c'est écrit hein, que ça... On s'achemine vers une dépense d'environ 80 000 euros hors taxes, en plus, dont 16 000 euros hors taxes qui viendraient de la ville. C'est l'équivalent d'un demi-poste, un peu, allez, un tiers de poste en ETP. Il nous restait du coup une question. Vu les implantations qui sont décrites, qui sont, j'ai envie de dire, naturelles, est-ce qu'il y a une demande de redéploiement des agents de la police municipale qui assurent déjà une présence qui est préventive, qui est rassurante, qui est humaine sur ces sites-là? On les croise régulièrement, que ce soit au collège, devant l'école, au City Park ou autre. Voilà, je vais conclure, je suis désolé, je ne vais pas prendre trop longtemps, mais moi, pour moi, j'ai compté 3 raisons de penser que tout ça était vraiment inutile, en termes humains, en termes financiers et en termes d'efficacité. Pour le coup, nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec ces 16 000 euros, même si le reste est quand même de l'argent public, on aurait pu penser garder cet argent pour réfléchir, par exemple, les parcs qu'on veut vidéo protéger, en l'occurrence.
On va pas faire le débat ce soir là-dessus. Je vous remercie.
Non, mais
merci.
Non, monsieur Roger, laissez-moi. Je
vais faire une proposition, Thomas. Merci. Je propose que votre groupe nous fasse une présentation complète sur la vidéo verbalisation que vous vantez avec mérite, avec les actions, le coût, etc. Je vous invite à nous faire une présentation en commission, totalement chiffrée.
Je ne suis pas élu aux commissions.
Non, mais je vous inviterai et vous ferez votre présentation, mais par contre, avec des données chiffrées. Et puis d'autre part, j'aimerais bien que vous parliez, quand vous parlez de chiffres et de références, on est à Vinet, donc quand on me parle du Havre, de ça, c'est super. Par contre, aujourd'hui, quelle a été l'efficacité des vidéos, des caméras de Vinet? Ça serait bien de poser la question à la brigade qui s'occupe de Vinet. Elle pourra vous répondre, ça sera mieux que les chiffres du Havre. C'est quand même pas mal déjà. Donc j'aimerais bien que déjà, quand on travaille dans le conseil municipal de Vinet, on ne fasse pas de la politique politicienne, mais qu'on fasse de la politique réelle de la ville. Donc aujourd'hui, quand on parle de chiffres, moi, vous me parlez de Vinet. Et là, quand vous allez voir les gendarmes de Vinet, j'aimerais bien que vous reveniez au conseil municipal, que vous donniez les chiffres du nombre de fois que les gendarmes de Vinet ont consulté les vidéos, les images sur l'année 2025 et sur les années antérieures. Et après, on pourra discuter. Parce que là, les chiffres du Havre, c'est bien, mais navré pour eux. Les chiffres des autres villes, c'est très bien. En plus, ils sont vraiment pas comparables. Par contre, moi, je rencontre régulièrement les services d'ordre et la gendarmerie. Je sais le nombre de réquisitions qu'on a pour regarder les images devinées, les nombres de fois où on a pu élucider des incidents, voire des incivilités, voire même des actes criminels. Malheureusement, on est dans un état de droit, on n'en fait pas de la publicité, et j'en suis fier, parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas pour mettre les gens sur la place publique. Par contre, aujourd'hui, ce que vous annoncez est faux. Est faux, même si les résultats sont pas à 100%, on est d'accord. Par contre, vous me citez des chiffres du Havre. Maintenant, j'aimerais que vous reveniez en conseil municipal en nous citant les chiffres devinés. Et après, on rediscutera. Pour ça, il faudrait aller voir les gendarmes locaux et pas la presse et pas un chercheur qui a travaillé sur un phénomène national sur des villes qui n'ont rien à voir avec Vinet. Je vous rappelle quand même qu'on n'est que 4500 habitants. Comparaison avec le Havre me fait légèrement sourire. Donc, moi, je veux bien, mais je donne, OK. Vous nous venez nous présenter, je vous laisse le temps qu'il faut, vous nous direz quand vous êtes prêts, nous présenter un projet de vidéo verbalisation, le coût, comment on le met en place et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut verbaliser avec. Il faut arrêter de faire croire aussi, de faire croire des choses aux gens. On ne verbalise pas tout avec la vidéo verbalisation. On ne sait pas verbaliser la vitesse, par exemple, déjà. Premier point, la vidéo-verbalisation ne sait pas faire. Mais je vous laisse venir nous présenter. Vous venez nous présenter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien ça coûte? Comment on met en place? Je suis prêt. Je vous attends. Et là, on mettra le débat. Ça fera une vraie commission ouverte et on parlera de ça. Mais là, par contre, j'aimerais bien qu'on parle des chiffres. Et quand vous revenez, j'aimerais aussi que vous ayez l'honnêteté de voir, de nous donner les chiffres qui ont été, le nombre de fois que les vidéos ont été vues, avinées, et ce que ça a permis de résoudre. Vous ne le savez pas. Oui. Vous avancez des choses que vous ne savez pas. Donc, je vous inviterai, on ferait une rencontre avec les services de l'ordre, et vous aurez les vrais chiffres. Mais là, il faut arrêter de dire des choses qui sont fausses. Je ne peux pas laisser dire ça. Et en tous les cas, par honnêteté, par rapport aux gens qui ont été victimes, qui ont eu la chance d'avoir pu régler leurs problèmes grâce à la vidéoprotection, je trouve ça totalement inapproprié. Donc, je ne peux pas laisser dire ça. Non, mais vous nous présenterez votre projet de vidéo-verbalisation. Avec plaisir. Je mets au vote le PV de la séance donc, du 15 avril. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je propose de nommer Lucas Geronimo, le secrétaire de séance, qui a toujours le privilège d'être le plus jeune. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vais laisser la parole maintenant donc à l'adjointe aux finances pour la délibération 2026-29.
Allez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, première délibération sur l'approbation du compte financier unique pour notre exercice 2025 du budget principal. Donc, tout ce que l'on va voir va être assez redondant pour chaque budget. Donc toujours décliné avec deux délibérations. Donc la première concerne le budget principal. Je rappelle que le CFU, le compte financier unique, est un document annuel qui retrace en fait l'ensemble de toutes nos exécutions budgétaires pour 2025. C'est un document qui reste unique et les éléments auparavant présentés dans le compte administratif sont compris ainsi que dans le compte de gestion. Donc ça permet ce soir en conseil de constater les dépenses et les recettes réalisées au cours de l'exercice et puis d'apprécier donc notre situation financière à la clôture de l'année et d'arrêter les résultats budgétaires qui seront repris dans le budget qui arrivera. Donc nous vous avons mis dans la note de synthèse la section d'investissement et la section de fonctionnement où vous pouvez donc voir les recettes réalisées en 2025 pour 2 807 799, les dépenses réalisées sur 2025 à hauteur de 4 069 363 €, ce qui laisse un résultat pour 2025 à -261 564. On reprend le résultat antérieur de 2024 à 1 274 338 €. Et ça nous laisse donc le résultat de clôture pour 2025 à 12 774 €. Là-dessus, on n'oublie pas nos restes à réaliser sur les dépenses et les recettes. Donc pour l'un à 637 013 €, pour l'autre à 421 417 €, ce qui fait donc un solde à -215 595 €, et un résultat global de clôture pour la section d'investissement à -202 821 €. Pour la section de fonctionnement, nous avons donc des recettes réalisées pour 2025 qui s'arrêtent à 5 506 562 €, des dépenses réalisées à 5 153 311 €, un résultat donc pour 2025 à 353 250 €. On reprend le résultat antérieur de 2024 à 576 344 €, ce qui laisse le résultat de clôture à 929 594 €. Donc ce sont des éléments que nous avions décortiqués lors de la première commission finances. Donc ce soir, voilà, on demande donc à notre conseil d'approuver ce CFU pour 2025.
Je vais laisser la présidence à la première adjointe, parce que je n'ai pas le droit d'assister au vote du CFU. Merci.
Allez, ben je le fais. Qui s'abstient?
Ouais.
Oui. Qui est contre?
Alors, allez-y.
Très bien, merci.
Oui, je voulais juste poser une question, mais aussi, hein, je suis désolée, un peu naïf, mais d'où vient l'excédent 2025? Est-ce que vous avez pu identifier ce qui a permis de dégager cet excédent? En fonctionnement, ouais, pardon.
L'excédent. Quand vous parlez d'excédent par rapport aux chiffres, qu'est-ce que vous aviez analysé?
Le résultat de fonctionnement 2025, il est de 353 000 euros.
Oui.
Est-ce que vous avez pu... Pour moi, il est en excédent, puisqu'il est...
Voilà. Oui. Ah oui, ouais, vas-y.
Alors, l'excédent, si je peux me permettre, donc ça, c'est un peu sur toutes les lignes. Hein. On est un peu sur des économies de charges de fonctionnement en particulier. En particulier, un peu plus que ce qu'on avait imaginé sur les économies d'énergie, un peu sur les charges de personnel, puisqu'il y a des recrutements qui se sont un peu décalés. On a gagné un petit peu, si on peut dire gagné, sur cette ligne-là. Et sur certaines recettes, de manière générale, qui étaient un tout petit peu plus importantes sur différentes lignes. Donc, quand on fait cumuler, on arrive à jusqu'à 350 000 euros. Mais on n'a pas de lignes spécifiques ou de projets qui n'ont pas été faits par rapport à ce qui était initialement prévu. C'est vraiment un gain sur les charges.
Oui,
les
puis charges ça résulte de tous les efforts que la collectivité a fait. En fait, c'est ce qu'on explique à chaque fois. Et comme le dit le DGS, un gros effort au niveau des services sur tout ce qui est... économie au niveau des charges de fonctionnement de la collectivité, mais après au niveau de l'énergie, tout ce qui est charges de personnel, vous l'avez vu au fur et à mesure, on essaie de pas forcément remplacer les départs en retraite. Voilà, ça passe par toutes ces petites choses. Donc effectivement, mis bout à bout, ça représente quelque part une économie.
Ok, je vous remercie.
C'est bon, ça peut... ah, allez-y, monsieur Journer.
Je vous pose une question également.
Non, sur le côté droit, il faut appuyer.
Franchement, pourquoi j'ai voté le budget ?
Vous pouvez rester assis, alors, pas de souci.
Pourquoi j'ai voté le budget ? Parce qu'il faut quand même que je dise, c'est pas pour... c'est parce que, madame, je vous le dis, ce que j'ai entendu la dernière fois en commission, j'ai adoré.
Ah bah alors là, ça me fait plaisir.
Je vous le dis pourquoi. Parce que moi, j'ai les chiffres. Et je serai intransigeant, je vous assure, l'année prochaine, on en discutera. Vous savez très bien que je maîtrise très bien les chiffres. Pourquoi ? Parce que moi, je vois le chiffre, je parle du fonctionnement. Hein. Après, oui, moi, je le savais, puisque j'étais en commission avec vous, donc la question a été logiquement posée par mon collègue d'à côté. Moi, je vous félicite parce que vous avez fait l'effort. Je vois une évolution 2025 avec... pas seulement des moins, mais c'est quelque chose... C'est pour ça que les commissions, elles sont très importantes pour bien comprendre les choses. Et je vois que l'effort a été fait. Et moi, je ne suis pas pour toutes ces choses négatives. Je dis, le budget que vous nous avez proposé, petite parenthèse, la dette de 6,7 millions, moi, je le savais, mais vous, quand nous a expliqué la chose, j'ai compris. Par contre, là, moi, je trouve que vous faites beaucoup d'efforts. Et donc, moi, les efforts que vous faites, je vous le dis honnêtement, sans, je vote votre budget parce qu'il est sur le chemin que j'aimerais qu'il prenne. C'est-à-dire vraiment d'essayer de le maîtriser sans toucher aux investissements, puisque c'est très important. Je resterai très concerné par la maison de santé. Normal, hein, je donnerai mon point de vue. Il sera voté ou pas. Après, j'ai fait des amendements pour le bien de tous. Je travaillerai avec vous. Il n'y a pas de souci. Par contre, je resterai vigilant et je suis vinois d'abord. Le reste ne m'intéresse pas. D'accord ?
Merci. Merci, madame. Voilà, de toute façon, le but de nos commissions, c'est, comme vous l'avez vu, à chaque fois de décortiquer limite ligne par ligne pour que chacun comprenne comme il faut. Alors, parfois, il y a peut-être une exagération au niveau des explications, mais on sait que un budget n'est jamais facile à comprendre. Et pour les débutants, il faut prendre le temps. Donc, merci pour vos remarques.
C'est donc, merci, M. Cordero. Merci à vous. Donc, on va pouvoir passer au vote. Donc, M. Paz, vous avez votre réponse.
C'est ça bon. Vous semble. J'ai une abstention.
D'accord. Donc, les abstentions. Une abstention. Alors. Ça a déjà été fait. Non, mais. Attends.
Je vais poser ma question, mais très rapidement. Je voudrais juste comprendre pourquoi on avait un résultat 2024 qui est pratiquement deux fois supérieur à celui de 2025. Donc, est-ce que vous avez fait plus d'efforts en 2024 par rapport à 2023? Et les efforts, bah forcément, on les a fait une fois, on a du mal à les faire deux fois. C'est juste pour mon information.
D'accord.
Alors, allez. Sur le résultat 2024, c'est un résultat cumulé là-dessus. C'est pas forcément qu'on a fait, il y a eu plus de résultats en 2024, c'est le résultat cumulé de toutes les années précédentes.
Okay.
Et sur lequel on vient rajouter le résultat 2025.
Ah oui, c'est résultat antérieur, c'est pas voilà. Résultat 2024.
C'est pas que le résultat 2024. De l'année, tout à fait.
Merci.
Allez, c'est tout.
On continue.
Bon. Ouais. Donc on passe à l'affectation. Je ne sais plus quand est-ce qu'on fait rentrer le maire.
Ben là, on va pouvoir le faire rentrer. On peut le faire rentrer.
Pour l'affectation, oui. Ouais. Allez, on passe à la délibération suivante. Bon.
Moi, je voulais remercier les services, et en particulier le directeur général des services, l'adjointe aux finances, toute la commission et l'ensemble des élus, de manière générale, mais plus particulièrement l'adjointe aux finances et sa commission finances, pour le travail qui est mené maintenant depuis 6 ans, pour la rigueur qui a été menée. Je rappelle quand même qu'on a pu investir sur les 6 dernières années quasiment 16 millions d'euros. Et malgré tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai pu lire, malgré tout, on est encore avec un compte administratif positif et très largement positif qui nous permet très largement de faire face à nos dettes. Donc c'est bien à un moment donné de dire les choses, puisqu'il est bien aussi de certains peuvent s'amuser, dire ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, moi je tiens à remercier les services parce que grâce à eux, et je vous invite dans les... Comparer aussi, parce qu'il y en a qui aiment bien faire les comparaisons, que dans les communes des strates de 4500 habitants, peu de communes de notre strate ont investi 16 millions en 6 ans et en ayant aujourd'hui un CFU positif à hauteur de presque 1 million d'euros. Donc je tiens à saluer tout ça, c'est grâce aux services, à la rigueur des services, donc je les remercie, parce que ça c'est très important. Et je voudrais rassurer aussi autre chose, c'est que l'impôt aujourd'hui pour les collectivités locales représente à peu près 35% de les recettes de la commune. Puisqu'aujourd'hui, le seul impôt qui rentre dans les caisses de la commune, c'est la taxe foncière. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est aujourd'hui pas propriétaire aviné, qui est locataire, paye 0 € d'impôt à la commune, comme dans toutes les communes de France d'ailleurs. Donc c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dynamique fiscale dans les collectivités locales. Avec la suppression de la taxe professionnelle, la suppression de la taxe d'habitation, il n'y a plus de dynamique fiscale. Aujourd'hui, un point d'impôt sur la ville de Vinay, ça représente 34 000 euros de recettes supplémentaires. Donc vous imaginez bien que même si on augmentait de 10%, et vous imaginez bien la tollée que ça ferait, ça ferait que 300 et quelques mille de recettes supplémentaires. Donc c'est pas avec ça qu'on va faire des millions d'investissements. Donc on est bien d'accord qu'aujourd'hui, quand j'entends c'est les impôts des Vinois, c'est les Vinois qui vont payer. Oui, sauf que déjà, il n'y a que les Vinois qui payent de la taxe foncière et qu'aujourd'hui, ça ne représente que 30 ou 35% de la recette aujourd'hui d'une collectivité locale. Donc ça, c'est très important. Donc encore une fois, merci à tous les services, merci à tout le monde pour cette rigueur de gestion qui nous permet aujourd'hui d'être une commune ambitieuse avec des budgets qui sont très restreints. Merci.
Allez, donc qui dit approbation dit affectation du résultat donc pour cette délibération. Donc conformément aux dispositions de notre nomenclature, il faut donc approuver le compte financier unique et prononcer l'affectation des résultats de l'exercice 2025 au budget principal. Donc cette affectation, elle a pour objet de reprendre les résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent et puis déterminer l'intégration au budget de l'exercice en cours afin d'en assurer l'équilibre budgétaire tant sur le fonctionnement que sur l'investissement. Donc aujourd'hui, on vous demande d'approuver les résultats de l'exercice 2025 du budget principal, à savoir un excédent de fonctionnement à 929 594 euros et un déficit d'investissement à 202 821 euros. Compte tenu des éléments de résultats et de l'obligation réglementaire de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, une affectation proposée est présentée comme vous le voyez, avec l'excédent d'investissement reporté à 12 774 euros, une affectation du résultat de fonctionnement à 202 821 euros et l'excédent de fonctionnement reporté à 726 773 euros. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Eh bien, je continue. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, on fait exactement la même chose cette fois-ci pour le budget annexe Montvinet, l'approbation du compte financier unique. Donc, pareil, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est le CFU. Mais à l'identique, c'est de constater les dépenses et recettes réalisées au cours de l'exercice, d'en apprécier donc la situation financière à la clôture de l'année et d'arrêter donc nos résultats budgétaires qui seront repris pour le prochain budget. Donc pour le budget Montvinet, pour la section d'investissement, des recettes réalisées en 2025 à hauteur de 150 853 euros. Des dépenses réalisées en 2025 pour 34 319 euros, ce qui laisse un résultat pour 2025 à 116 533 euros. Là-dessus, notre résultat antérieur de 2024 à moins 91 106 euros, ce qui laisse un résultat de clôture à 25 427 euros. On retrouve nos restes à réaliser pour les dépenses à 50 908 euros. Pas de reste à réaliser en recettes. Ce qui fait un solde à 50 908 euros, moins 50 908 euros, et un résultat global de clôture à moins 25 480 euros. Pour donc la section d'exploitation, donc recettes réalisées en 2025 donc à zéro, les dépenses réalisées en 2025 à 3 644 euros, donc un résultat sur 2024 à moins 3 644 euros. Là-dessus, un résultat antérieur de 2023 à 49 445 euros, ce qui laisse notre résultat de clôture à 45 801 euros. Pas de questions? Qui s'abstient? Ah oui, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Allez, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Allez, on rappelle. Sacré gymnastique. Voilà, on sort, on rentre. Allez, on continue sur la même gymnastique que le budget principal. Donc, prochaine délibération sur l'affectation du résultat pour le budget annexe Montvinet. On retrouve les résultats de l'exercice 2025 avec un excédent d'exploitation à 45 801 euros, le déficit d'investissement à 25 480 euros. Et donc, on vous l'a présenté sur les deux sections, avec pour la première, pas de recettes réalisées. Des dépenses réalisées, on retrouve les 3 644 euros, un résultat 2025 à moins 3 644 euros. Notre résultat reporté 2024 à 49 445 euros, soit un résultat total à affecter à 45 801 euros. Sur la section d'investissement, nos recettes réalisées à 150 853 euros, nos dépenses réalisées à 34 319 euros, pour un résultat 2025 à 116 533 euros. On retrouve le résultat reporté de 2024 à moins 91 106 euros, soit un résultat cumulé à 25 427 euros. et nos restes à réaliser. Pour les dépenses à 50 908 euros, pas de reste à réaliser en recettes, soit un solde sur nos RAR à moins 50 908 euros et un résultat global de clôture à moins 25 480 euros. Donc pareil, nos éléments de résultat avec notre obligation réglementaire de couvrir notre besoin de financement sur la section d'investissement et l'affectation proposée, eh bien, on la décortique avec notre excédent d'investissement reporté, avec nos 25 427 euros, notre résultat affecté en investissement à 25 480 euros et notre excédent de fonctionnement reporté à 20 320 euros. Pas de questions? Des abstentions? Qui est contre? Donc une abstention. Eh bien, nous continuons avec la délibération suivante sur l'approbation du CFU, mais là pour le budget annexe de la régie Vinet-Chaleur-Bois. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire l'explication du compte financier. Donc pareil, on vous a donc mis la section d'investissement et puis la section d'exploitation. Donc pour l'investissement des recettes réalisées pour la région 2025 à 494 820 euros, des dépenses réalisées en 2025 pour 611 492 euros, soit un résultat pour 2025 qui reste à moins 116 672 euros. On retrouve un résultat antérieur de 2024 à moins 51 109 euros, soit un résultat de clôture 2025 à moins 167 781 euros. Toujours nos restes à réaliser en dépenses à 291 754 euros, en recettes à 170 000 euros, soit un solde à moins 121 754 euros et un résultat de clôture pour 2025 à moins 289 536 euros pour l'investissement. Pour la deuxième section, donc, on retrouve nos recettes réalisées en 2025 à 960 615 euros, des dépenses réalisées à 708 071 000 euros, un résultat qui reste donc à moins 252 543 euros. On reprend le résultat antérieur de 2024 pour 265 754 euros, ce qui nous fait un résultat de clôture sur cette section à 518 298 euros. Qui s'abstient? Ah oui, c'est vrai, oh là là, faut que tu sortes direct. Allez, qui s'abstient? Ok, qui est contre? Merci. Allez, on revient. Allez, la délibération suivante. Eh bien, pareil, l'affectation donc du résultat. La 2026-34. Donc l'affectation du résultat 2025 pour le budget annexe de la régie Vinet-Chaleur-Bois. Et bien là, donc la même chose. Donc nos résultats pour l'exercice 2025 sont les suivants. Un excédent d'exploitation à 518 298 euros. Un déficit d'investissement qui reste à 167 781 euros. Donc on décortique sur les deux sections. Donc pour l'exploitation, on retrouve nos recettes réalisées pour 960 615 euros, nos dépenses réalisées pour 708 071 000 euros, donc notre résultat 2025, donc le chiffre dont on a parlé à 252 543 euros, notre résultat reporté de 2024 à 265 704, 754 euros. À la fin, je ne vais plus y arriver. Hein. Résultat total à affecter, 518 298 euros. notre section d'investissement avec nos recettes réalisées à 494 820 euros, dépenses réalisées à 611 492 euros, notre résultat sur 2025 à moins 116 672 euros, nos résultats reportés de 2024 à moins 51 109 euros, ce qui laisse un résultat cumulé à moins 167 781 euros. Et là, pareil, on retrouve nos restes à réaliser en dépenses pour 291 754 euros, en recettes 170 000, ce qui fait un solde de nos restes à réaliser à moins 121 754 euros et un résultat global de clôture à moins 289 536 euros. Donc avec tous ces éléments de résultats, on a donc notre affectation sur le déficit d'investissement reporté à 167 781 euros, notre résultat affecté en investissement à 289 536 euros et notre excédent de fonctionnement reporté à 228 762 euros. Il ne me parlait plus de chiffres. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Délibération 2026-35, on change de sujet. Une délibération sur la convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales, donc PFIP, pour le budget principal et les budgets annexes. On fait une petite info et un rappel en expliquant que toutes les communes ont l'obligation de mettre en place un système de paiement dématérialisé, ce qui est beaucoup plus simple, mais son utilisation doit rester facultative pour nos usagers. C'est une généralisation qui ne doit pas conduire à supprimer à terme les autres moyens de paiement. Donc la DGFIP a mis en œuvre un traitement informatisé, dont l'objet est la gestion du paiement par Internet dans le respect de la réglementation bancaire des titres de recettes. Et cette application, elle peut offrir à l'usager le choix entre un paiement par carte bancaire ou par virement normal. C'est un dispositif qui permet aussi de ne plus utiliser de chèques ou d'espèces tout en conservant l'initiative du paiement qui reste accessible tout le temps. Voilà, donc en fait, c'est une délibération qui nous permet la mise en place d'un paiement par Internet et il faut qu'on adhère pour cette appli qui est proposée par la DGFIP. Donc c'est pour simplifier les choses, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Je continue dans les conventions. Donc, délibération numéro 36, une convention d'adhésion à l'assistance du CDG 38 sur les dossiers retraite qui relève de la CNRACL. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, et puis dans le cadre de la mission confiée par la loi, le CDG accompagne les collectivités sur le sujet de la retraite des agents. Donc les dernières réformes de retraite imposent aux collectivités une gestion qui est beaucoup plus approfondie des comptes individuels de retraite. Et le service retraite du CDG propose d'assurer pour la collectivité et en fonction de nos besoins des missions complémentaires à ce que proposent nos services, en plus des missions obligatoires de fiabilisation des comptes individuels de retraite. Donc c'est une convention qui prendra effet si elle est votée au 1er juin pour un an et qui est renouvelable tacitement une fois pour la même durée et qui consiste à informer les collectivités, enfin notre collectivité sur la réglementation, faire du conseil, et puis réaliser tout ce qui est prestations et aide au dossier avec un accompagnement personnalisé, aider aussi à la constitution des dossiers, contrôler et suivre un peu les dossiers des agents et puis de l'aide aussi sur le contrôle de la carrière, la saisie des dossiers de liquidation, des demandes d'avis préalables, enfin voilà, tout ce qui est contrôle de carrière et saisie du compte individuel de retraite. Donc c'est vraiment un appui à nos services. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Délibération numéro 37. Donc là, eh bien, on démarre notre mandat et donc on doit reconstituer notre CST, hein, le comité social territorial, entre la commune et les établissements qui lui sont rattachés, à savoir le CCAS et la résidence autonomie. Donc on rappelle que la création d'un comité social territorial dans chaque collectivité et peut se faire que si elle emploie au moins 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants de la collectivité et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de le créer et voilà, de décider un petit peu de tout, tous les dossiers ou les réflexions qui sont apportées en lien avec les agents. Aujourd'hui, on rappelle que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et contractuels de droit privé au 1er janvier 2026 étaient pour la commune à 60 agents, pour le CCAS 3 agents et pour la résidence autonomie 4 agents, soit un total de 67 agents qui nous permettent donc la création de ce CST. On l'a déjà, mais on le recrée. Pas de questions ? Si.
C'est bon là ? En réalité, j'ai pas fait attention. Là, quatre agents au Vercors, ils sont pas trois. Enfin, je pose.
Ah, oui.
Ouais, bah après. Je suis désolé. Oui, ouais, 4, pour moi, c'est 4 postes.
3,5. Quoi.
Oui, voilà. Non, excusez-moi le.
C'est pas grave. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Donc, cette délibération étant votée. Eh bien, la délibération suivante, la numéro 38, est sur la fixation de la composition de ce CST, le maintien ou non du paritarisme et le recueil du vote des représentants de l'employeur. Donc, on rappelle que le CST est chargé de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail, que le comité social territorial est créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents et il appartient à l'organe délibérant, au moins 6 mois avant la date du scrutin, de déterminer, après consultation des organisations syndicales, son nombre de représentants du personnel, le nombre de représentants de l'employeur, et puis le recueil de leurs avis. Donc aujourd'hui, il est demandé de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel pour ce CST, à 3 le nombre de représentants titulaires de l'employeur et de donner pouvoir à ce CST l'avis séparé des représentants de l'employeur sur toutes les questions de l'instance et puis la position du maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de ce qui est inscrit dans cette délibération. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci.
Merci beaucoup, Myriam, pour toutes ces délibérations entre les finances et le RH. C'est toujours passionnant d'avoir tous ces chiffres et surtout toutes les délibérations RH me font toujours qu'on doit reprendre à répétition. C'est toujours un travail fastidieux. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Renaud pour la délibération 2026-39.
Cette délibération concerne un échange foncier entre M. et Mme Kleparski, chemin des Gorges. Si vous regardez bien le petit schéma que vous avez dessous, ça consiste en l'échange d'une bande de terrain le long de leur propriété côté route et en échange de la partie du talus du chemin d'accès. Alors le chemin des gorges porte bien son nom, c'est bien un chemin, c'est vraiment pas large. Et donc cet échange va permettre d'élargir la route, enfin la voie d'accès et améliorer la sécurité. Donc je vous propose d'approuver cet échange et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents s'y afférents chez Maître Vangy à Vinay. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Toujours Renault pour la 2026-40.
Cette fois-ci, ça concerne des parcelles, une parcelle qui est située derrière l'ancienne centrale qui appartenait à la centrale thermique qui appartenait à la commune. Donc, Monsieur Gage nous a demandé d'acheter cette parcelle puisque vous pouvez voir qu'il est limitrophe. Il est propriétaire limitrophe de cette parcelle. L'estimation des domaines a été faite à 2000 euros et il est proposé de lui permettre d'acheter cette parcelle. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Merci. La délibération 2026-41, Florence Clénat.
Alors, la désignation concerne le bénéficiaire du prix de mérite Louis Brun-Folquier. Vu le testament Louis Brun-Folquier, vu la liste des candidates à l'élection de la Rosière 2026, la commission spéciale du prix de mérite s'est réunie le 29 avril pour procéder à l'élection de la 133e lauréate du prix. C'est mademoiselle Ambre Louis qui a été élue Rosière 2026 à l'issue du vote à bulletin secret au deuxième tour par 20 voix sur 31 voix exprimées. Donc, on demande au conseil municipal de prendre acte de l'élection d'Ambre Louis en tant que 133e lauréate du prix de mérite Louis Brun-Folquier, Rosière 2026. D'accord.
Une prise de connaissance de ce que la commission spéciale a délibéré. La 2026-42.
Ça concerne la désignation du meilleur élève Leg Grand 2026. Vu le testament de M. Grand instituant une bourse d'études au meilleur élève, et considérant le choix de M. Antoine Favrel en tant que lauréat de la bourse Grand pour l'année 2026. Donc nous prenons acte de l'élection de M. Antoine Favrel en tant que lauréat de la bourse pour 2026.
Pareil, on prend acte de ce que la commission spéciale a validé. Par contre, la 2026-43, elle, attendra un vote.
Alors, nous rappelons que, conformément à la délibération adoptée en 2024, les dotations attribuées à la Rosière ainsi que la dotation attribuée au Leg Grand sont révisées annuellement en fonction du taux d'inflation de l'année précédente, tel que publié par l'INSEE. Considérant que le taux d'inflation pour l'année 2025 est établi à 0,9% par l'INSEE. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder une dotation de 2264 euros à la jeune fille élue Rosière pour l'année 2026. Donc, ce montant correspondant à l'indexation de la dotation de l'année précédente sur l'inflation constatée en 2025. D'attribuer une participation de frais de tenue et d'accessoires de la Rosière dans la limite maximale de 669 euros pour l'année 2026. Cette participation pourra être versée directement au fournisseur ou remboursée sur présentation de facture. D'allouer une dotation de 669 euros aux bénéficiaires du Leg Grand pour l'année 2026. Et rappeler que les montants des dotations attribuées à la Rosière ainsi que la dotation du Leg Grand sont révisés annuellement en fonction du taux d'inflation de l'année précédente, tel que publié par l'INSEE.
Avant de mettre au vote, est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vanessa Savini pour la 2026-44.
Voilà. Bonsoir. Donc, signature de la convention de mise à disposition autorisant l'occupation du domaine public communal par le dispositif intégré médico-éducatif ou autre partenaire des écoles publiques de Vigné. Donc, on a certains acteurs de l'éducation nationale, donc le DIM, dispositif intégré médico-éducatif, et le RASED, le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, qui ont besoin qu'on leur mette à disposition gracieusement des locaux pour venir en aide à certains élèves. Donc, vous trouverez en pièce jointe la convention. Donc, c'est une convention qu'on revoit chaque année. À savoir qu'on a une psychomotricienne et 4 éducateurs spécialisés donc, qui viennent sur des temps scolaires. Ils voient en moyenne à peu près 20 enfants issus de l'élémentaire et du collège sur l'année. Il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Délibération numéro 45, donc l'approbation du règlement intérieur des accueils périscolaires. Donc vous trouverez en pièce jointe notre règlement intérieur des accueils périscolaires. Et on a voulu apporter quelques modifications afin de le rendre plus lisible pour les familles et pour le service. Donc, je rappelle les accueils concernés par les agents périscolaires. Donc, vous avez l'accueil du matin de 7h30 à 8h30, la pause méridienne de 11h45 à 13h45, les activités après la classe 16h30, 17h30 et l'accueil du soir 17h30, 18h30. Donc, les modifications qui sont apportées dans le règlement intérieur concernent l'article 4.1. Donc, c'est la suppression d'une restriction d'accès en début d'année scolaire. Il faut savoir que courant juin-juillet, sur 3 semaines, il est mis en place l'ouverture des services d'inscription pour l'année suivante. Et afin de connaître le nombre de familles qui vont bénéficier donc, des accueils et connaître le nombre d'agents qu'on aura besoin à la rentrée. Et si les familles n'avaient pas fait jouer le jeu d'inscrire leurs enfants, les 15 premiers jours, ils ne pouvaient pas mettre leurs enfants au service périscolaire le temps qu'on puisse recruter à nouveau pour avoir respecté le taux d'encadrement. Aujourd'hui, ils ont bien pris le coup, donc on n'a pas de souci, les familles jouent bien le jeu, donc on n'a plus besoin de mettre cette ligne restrictive et on rencontre aucun souci, on a le nombre d'agents qu'il faut à la rentrée. Ensuite, on a ajouté le tableau récapitulatif des règles de réservation et d'annulation que les parents connaissaient mais qui ne se trouvaient pas dans le règlement intérieur. Donc c'est pour rappeler que ce soit plus lisible pour les familles. Les délais de réservation des différents accueils. Donc, vous avez pour la pause méridienne, les activités détente après la classe et comment réserver et annuler ces différents temps. Donc, la modification principale est apportée sur la journée du jeudi. Donc, les dernières réservations sont le mardi avant 8h30 pour le jeudi, contrairement à avant que c'était jusqu'au mercredi matin 8h30. Mais sachant que notre agent qui s'occupe des réservations était obligé de faire du télétravail pour gérer ses inscriptions. Donc, le temps est avancé à mardi. Et ensuite, le dernier article, numéro 9, article juridique, qui a été renforcé pour sécuriser les procédures, que ce soit pour les familles ou pour les agents. Voilà. Il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération 46, c'est la convention de mise à disposition de locaux et du personnel à la communauté de communes Vercors-Isère pour les accueils de loisirs intercommunaux. Donc c'est une convention qu'on renouvelle chaque année. Donc pour les temps d'accueil de loisirs intercommunaux, les mercredis, petites vacances et grandes vacances, donc à savoir qu'ils occupent nos locaux, qui on leur met à disposition, qui sont listés dans la convention. Et donc nos locaux périscolaires, scolaires et le gymnase. Et on met également à disposition du personnel pour le restaurant scolaire et pour l'entretien des locaux. Donc dans cette convention, vous retrouvez également toutes les bonnes règles de fonctionnement, la mise à disposition du matériel, des locaux, du personnel. Et elle est pour la période du 1er janvier au 31 août 2026. Et également les modalités financières qui en découlent. Il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Merci. Donc la délibération 47, c'est la désignation des délégués à la commune au sein de l'association Amorce pour les compétences énergie et réseau de chaleur et réseau de froid. Donc c'est une association qui travaille sur tout ce qui concerne l'énergie d'une manière plus générale et sur les réseaux. Donc je propose qu'on nomme comme représentant de la commune Renaud Mélinon comme titulaire en tant que adjoint à la sobriété et Jean-Pierre Monnet en tant que suppléant. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération 48, c'est une convention de mise à disposition gratuite et précaire, révocable, du parking souterrain, donc dessous l'immeuble Renouveau, R-1, rue de la Fort, Amiens, au profit du SDIS 38. En effet, le SDIS nous sollicite, et en particulier la caserne des pompiers de Vinay, pour pouvoir faire des manœuvres dans ce souterrain, en particulier d'appareils respiratoires isolants. Donc, il est proposé avec le SDIS de signer cette convention, puisqu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça avec le SDIS. On doit travailler avec des conventions au préalable. Donc, pour que nos pompiers puissent s'entraîner correctement, je vous propose qu'on prenne cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. J'ai sa parole à Jean-Pierre Monnet pour la délibération 49.
Donc la 49, c'est une demande de subvention pour l'aménagement du cheminement piéton sécurisé le long de la rue Raymond-Plessus. Comme vous le savez, l'Interco fait des travaux d'assainissement à la rue Raymond-Plessus. On va faire donc la sécurisation des trottoirs à la fois pour les piétons et les cyclistes. Et il se trouve qu'il y a une subvention à demander. Donc le montant des travaux est de 450 800, on peut demander 8,9% des travaux, c'est pas énorme mais c'est déjà ça. Donc ça fait une somme de 40 000 qu'on demande. Donc voilà, autant la demander puisqu'elle existe. Il y a des questions là-dessus. Qui s'abstient, qui est contre? Merci.
Merci. Donc l'ordre du jour est épuisé. J'ai oublié d'annoncer, on va retirer la délibération 2026-50 qui était la demande d'avance de remboursable pour le budget annexe de Vinay Chaleur Bois. On avait prévu cette délibération, mais comme entre-temps on a reçu les subventions qu'on attendait, on n'est pas obligé de faire cette avance remboursable, donc du coup on la retire. Donc il n'a pas été nécessaire, les subventions sont tombées dans les délais, on n'en a pas besoin. Donc l'ordre du jour est clos. Le prochain conseil municipal, si tout se passe bien, se passera le 24 juin. Le 25 juin, vous allez recevoir prochainement l'invitation pour la soirée élu agent. Donc ça sera le moment où on aura cette soirée avec les agents. Donc en deux temps, un premier temps un peu plus protocolaire où on se présentera les uns aux autres, et un deuxième temps plus convivial où on partagera un repas et un apéritif tous ensemble au boulodrome, et on pourra même, pour ceux qui le souhaitent, s'exercer au jeu de boules longue ou pétanque, comme le veulent. Donc le noter dans vos agendas, le 25 juin. Je rappelle également la fête de la musique du 20 juin, c'est ça, oui. Du 20 juin. Cette année, nouveauté au Mont-Vinay, donc sur les espaces du Mont-Vinay. Et déjà, en annonce, je rappelle également, pour ceux qui ne le savent pas encore, le moment de convivialité, mais peut-être que Jackie peut nous en dire deux mots, sur le 14 juillet, donc bien sûr, la commémoration au Monument Mort, mais après, la journée au Mont-Vinay, sur un moment de partage entre Vinois sur le parc du Mont-Vinay.
C'est bon, c'est le mien. Ouais. Donc, avant toute chose concernant, avant de parler de 14 juillet, moi, je voudrais évoquer aussi du repas des aînés qui a lieu vendredi. Donc vous avez vu là les températures, donc on a modifié un peu l'emplacement. Donc ce repas se place, situera à la salle des fêtes pour avoir un peu plus de sécurité et un peu plus de bien-être au niveau des personnes. Donc les personnes qui avaient validé le fait de venir, on est toujours à votre attente. Voilà. Également, donc pour le 14 juillet, effectivement, on a commencé à travailler sur une festivité un peu différente des autres années. Le 14 juillet, d'habitude, on le fête en bas. Donc là, on va le fêter au château, donc avec une petite animation. Donc tout se fera, on fera la commémoration, bien sûr, au monument. Et dans la foulée, on fera un accueil des habitants et sous forme d'un peu plus festif. Mis à part le vin d'honneur, après il y aura une animation, il y aura des danseurs, donc il y aura aussi la banda, il y aura un peu de toutes sortes de choses, donc voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus et voilà, tout est prévu pour passer à un moment assez festif pour le 14 juillet. Voilà. Et après, moi, si je peux prendre un peu la parole, je voudrais parler à mon nom, Monsieur Pastre, s'il vous plaît. On a fait des réunions de quartier. Les années précédentes, et on avait toujours la demande de la population de savoir si on pouvait avoir des caméras d'implanter dans certains quartiers. Voilà, il y a cette raison-là aussi pourquoi on a un peu étendu, parce qu'il y avait une forte demande de la population, en toute honnêteté. Voilà, merci.
Ben, merci bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et donc rendez-vous pour ceux qui sont là le vendredi pour le repas de nos aînés, et pour les autres, rendez-vous tout au long du mois de juin et au plus tard le 24 juin.